Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Retrouver sur cette libre antenne du dimanche soir, cette libre antenne qui est la vôtre. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin pour partager vos joies, vos peines, vos confidences, vos histoires de vie, vos doutes, vos questionnements. Parce que parler de ce qui nous préoccupe, ça fait du bien. Quand on parle de quelque chose à quelqu'un d'autre, ça nous permet de mieux nous entendre et donc quelquefois d'avoir une autre compréhension des choses. Alors ne restez pas seul, ce soir venez me parler. Je vous attends au 3921, je ne vous promets pas de miracle, mais une oreille attentive et bienveillante et quand c'est possible, des conseils pour vous permettre d'avancer. 3921, le numéro de téléphone, vous tomberez au standard sur Amandine et Hassan qui vous accueillent eux aussi avec beaucoup de bienveillance avant de vous guider jusqu'à moi. Le numéro de téléphone 3921, mais par SMS, vous savez que vous pouvez aussi participer en tapant le 7-39-21, en pensant bien à commencer par le mot nuit. Je vous rappelle que les SMS vous servent à commenter ce qui se passe à l'antenne, apporter un soutien, une idée. Et surtout, si vous souhaitez entrer en communication, en relation avec quelqu'un que vous entendez témoigner, faites votre demande par SMS pendant l'émission, comme ça nous vous mettons en relation immédiatement. C'est Fabrice Fougerousse qui est aux commandes ce soir, et la libre antenne, eh bien ça commence maintenant. Chose promise, chose due, on commence cette émission avec vous Isabelle, bonsoir.
Bonsoir Sabine.
Alors si vous permettez, je vais resituer le contexte pour ceux qui n'étaient pas avec nous vendredi soir. Vous nous aviez appelé parce que vous veniez d'assister quelques heures auparavant à un accident avec un jeune homme qui a été renversé en scooter. Vous étiez dans tous vos états et vous avez besoin d'en parler, donc on a passé un petit moment toutes les deux à discuter. Et puis j'ai demandé à l'antenne à tous nos auditeurs qui étaient libres et disposés à venir vous soutenir de vous appeler pour ne pas vous laisser seul vendredi. Parce que vous aviez vraiment besoin de parler, d'être avec quelqu'un. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé quand on s'est quitté après la libre antenne.
Alors, en fait, j'ai toujours l'accident dans la tête. Hein.
Bien sûr.
C'est encore un peu trop jeune.
Ah oui, ça fait deux jours, c'est normal.
Voilà. Mais votre équipe... m'a donné des numéros de correspondants ça m'a fait extrêmement plaisir dans la mesure où sur 5 correspondants je suis en communication avec 4.
En fait, quand vous dites correspondants, ce sont des auditeurs qui vous ont entendu sur la libre antenne, qui ont été touchés par votre témoignage et qui ont demandé à rentrer en contact avec vous tout de suite.
Oui.
D'accord.
Oui. Et je les ai appelés, ce sont vraiment des gens adorables et nous restons en contact depuis 48 heures. Voilà. Et vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je ne sais pas comment vous dire.
C'est une belle solidarité. Et moi, ça me fait chaud au cœur aussi de savoir que notre émission vous est utile comme ça et que ça peut, ça peut créer des liens humains.
Ça peut créer des liens humains et je le souhaite à d'autres personnes qui vivent peut-être ce genre de problème ou d'autres.
Des situations difficiles.
Mais en tous les cas... là, ce que vous m'avez apporté, je ne peux pas vous imaginer comme je me sens moins seule. Voilà.
Est-ce que dans les gens, parmi les gens qui vous ont appelé, il y a des gens qui ont vécu la même chose que vous, qui ont été témoins d'un accident comme ça?
Oui.
Et qui peut-être vous ont donné des conseils pour vous en sortir, pour arriver à avancer, à surmonter ce choc? Oui.
Notamment quelqu'un, bon, je ne citerai pas le nom à l'antenne, hein, qui est secouriste, qui habite en Bretagne. Mmh. voilà, qui est une personne absolument adorable. Mon Dieu, comment dire, elle m'a apaisée, elle m'a dit que bon bah, je serais sûrement contactée par la police pour faire un témoignage écrit, ce qui est normal, bien évidemment. Voilà. Je m'y attends, il n'y a pas de souci, ça je vais le gérer. Ensuite, les autres personnes, c'est venu de toute la France. Franchement, ça m'a...
Ça vous a fait du bien.
Je me suis sentie beaucoup moins seule grâce à vous, Sabine. Ouais.
Mais grâce aux auditeurs, Isabelle, vous savez, c'est ça qui est formidable. Quand les gens ouvrent leur cœur et quand il y a une chaîne de solidarité qui se crée comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Là, on est vraiment... Voilà, ça nous réconcilie avec l'humanité quand ça se passe comme ça.
Oui.
Et j'aimerais
oui.
tellement que ça puisse se passer comme ça pour tout le monde. Mais c'est de plus en plus le cas, de plus en plus. Vous savez, on arrive à mettre en contact des gens qui se soutiennent, qui s'épaulent, qui s'aident. Parce que quand on vit quelque chose de difficile, le partager... Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle, ça ne résout pas tout. Mais ça fait du bien, la preuve.
Ah oui, oui. Et franchement, merci beaucoup pour votre émission parce que vous avez de l'empathie, bien évidemment, envers des gens qui sont, comme moi, j'étais vendredi soir en état de choc. Bon, je ne vous dis pas que je n'ai pas encore l'image, je l'ai encore dans les yeux. Hein.
Je vous l'avais dit, Isabelle, il y a un petit travail à faire en thérapie, en EMDR notamment, quand il y a un trauma comme ça. On en avait parlé.
Oui,
ça ne va pas s'effacer comme ça et aussi rapidement, ça c'est sûr.
Ceci dit, comment dirais-je, de par ces gens que j'ai contactés, bah, je vais beaucoup mieux. Et ça, c'est grâce à vous, à votre émission.
Ben vraiment, j'en suis ravie. Ça nous fait vraiment, vraiment chaud au cœur de savoir que notre émission vous est utile.
C'est grâce à vous, oui. Et les gens que j'ai contactés, je suis toujours en contact avec eux. Ils sont absolument charmants, d'une extrême empathie envers moi. Je les rassure, je leur dis que je vais mieux. Et encore une fois, c'est grâce à votre émission.
Merci d'avoir
appelé. Je ne vous remercierai jamais assez, Sabine. Oui.
Merci, voilà. Merci à vous, Isabelle. Je me demandais juste, est-ce que vous avez eu des nouvelles du jeune homme qui a été accidenté?
Alors, j'ai essayé d'appeler l'hôpital, donc n'étant pas de la famille.
Oui, bien sûr.
Ils ne
vous donnent pas d'infos. Ouais.
Voilà. Ensuite, j'ai rappelé le commissariat. On m'a dit que ça allait bien.
Bon,
il
est en vie et a priori, ça va quand même. Donc, les nouvelles sont plutôt positives de ce côté-là aussi.
Disons que j'ai un peu le doute dans la mesure où, quand j'ai vu le vol plané qu'il a fait par-dessus la voiture...
Vous savez, ce ne sont pas les accidents les plus spectaculaires qui sont les plus dangereux. Rappelez-vous l'accident de Michael Schumacher en ski, hein. Il est tombé à 30 km/h, il est devenu paralysé complètement. Ce ne sont pas les accidents les plus spectaculaires qui sont forcément les plus graves. L'essentiel, c'est de savoir que ce jeune homme est encore en vie et qu'a priori, d'après la police, il va plutôt bien. Donc peut-être vous en saurez plus en faisant votre déposition quand on vous appellera, probablement.
Oui.
Vous pourrez demander peut-être à ce qu'on laisse votre portable à sa famille ou qu'on lui transmette.
J'aimerais bien, oui.
Par la suite, quand,
je ne peux pas.
Quand les choses seront un peu apaisées, savoir prendre de ses nouvelles, ça serait important. Et puis peut-être même lui faire savoir aussi que ben, voilà ce qui s'est passé sur la libre antenne ce soir-là et qu'on a beaucoup pensé à lui aussi.
Oui.
Peut-être ça lui fera plaisir de savoir ça.
Oui.
Si un jour vous entrez en contact avec lui. Savoir que par la pensée, en tout cas, on était tout cœur avec vous et avec lui ce soir-là.
Je ne le connais pas, je connais pas son nom, donc j'étais traumatisée parce que c'était un jeune. Comme je vous ai dit vendredi soir, entre 15 et 17 ans, on va dire.
Un adolescent, oui.
J'étais complètement bouleversée et grâce à vous, j'ai rentré en contact avec des gens absolument charmants qui m'aident et depuis 48 heures, et bien, on n'arrête pas de s'appeler quelque part. Et je trouve ça merveilleux. Et grâce à vous, je me sens beaucoup mieux. Voilà.
Mais tant mieux, c'est ça aussi la libre antenne. Merci Isabelle de nous avoir rappelé pour partager ça avec nous. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Je vous en prie.
Avec grand plaisir. Et c'était la moindre des choses. Et surtout, restez comme vous êtes et gardez votre libre antenne. Parce que vous aidez des gens qui sont très mal. Et c'est tout à votre honneur.
Ça, voilà. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Et je vous rappelle notre numéro de téléphone. Si vous souhaitez passer à l'antenne, intervenir ce soir jusqu'à 1h du matin, vous faites le 39-21. Et c'est le numéro que François a fait. Donc, je vous accueille avec grand plaisir. François, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de l'accueil.
Alors, dites-moi, quelle est la raison de votre appel ?
Alors bon, je vous appelle pour une situation que je vis, qui est une situation, je pense, de la vie courante, assez personnelle, qui concerne les relations hommes-femmes, mais la frontière entre, je dirais, entre l'amitié et une relation, on va dire, plus sentimentale, romantique, voire amoureuse. Voilà où je suis. Je vis cette situation depuis, on va dire, à peu près 2 mois avec une personne qui est à l'étranger, que j'ai connue dans un contexte, on va dire, professionnel, que j'ai revue assez récemment, à l'étranger, également dans le cadre d'un salon professionnel. Maintenant, j'échange depuis pas mal de temps avec cette personne par texto. Et puis, bon, il y a un petit peu la barrière de la langue, d'une part, si vous voulez. Moi, je me suis assez dévoilé, je suis assez épris, même, je dirais, secoué par la relation. Et d'un autre côté, bon, j'ai du mal à décrypter la personne. Alors, est-ce que c'est un problème de langage ? Est-ce qu'il y a une timidité derrière tout ça ? Est-ce que la personne ne se dévoile pas ? Bon, j'ai du mal à le voir, en tout cas. Voilà.
Ah, quand vous parlez de relation, est-ce qu'il y a eu une relation ?
Non, il n'y a pas eu de relation. C'est potentiellement une ébauche de relation. Alors, bon, c'est quelque chose qui surgit, je dirais, maintenant, avec une personne que j'avais vue déjà il y a à peu près plus de 2 ans. Sur une première rencontre professionnelle à ma société, j'ai eu des échos par cette personne qu'elle manifestait de l'intérêt à mon égard. Bon, elle m'a envoyé un cadeau à un moment donné. J'étais assez touché et puis, bon, je pensais que c'était sur le ton de la courtoisie. Elle parle de moi aussi également, c'est ce qu'on m'a rapporté. Et bon, j'ai pris l'initiative au moment de Noël de lui envoyer également en retour un cadeau. Elle a été très touchée et bon, petit à petit s'est instauré derrière ça un échange, on va dire par texto, avec échange de photos, etc. On est chacun, je pense, on est séparés avec un enfant en ce qui la concerne et un également pour moi. Et bon, j'y vois pas clair. Bon, elle m'envoie des photos, on discute, je dirais, en anglais. Mais bon, elle se dévoile pas. C'est un petit peu ça mon souci. Il y a le langage aussi, on va dire, moderne des textos et des smileys. C'est pas évident à décrypter. Alors, est-ce qu'il y a derrière ça une timidité? Est-ce qu'elle souhaite rester sur une relation amicale? Bon, ce que je sais au jour d'aujourd'hui et de ce qu'elle vit, elle est dans une situation très très délicate professionnellement parlant. Et bon, je pense qu'elle est aussi secouée à ce niveau-là. Bon, moi je l'encourage bien évidemment. Mais bon, je ne sais pas là actuellement où j'en suis par rapport à ça.
Quand vous dites que vous êtes séparés tous les deux, est-ce que vous êtes complètement dispo?
Ah oui, moi je suis complètement dispo, oui, totalement, oui. Je n'ai pas refait ma vie au jour d'aujourd'hui. Je n'irai pas à tout prix nouer une relation, je dirais presque éphémère. Je m'inscris dans quelque chose, on va dire, de constructif. Et bon, je me suis arrêté sur cette personne.
Et elle, est-ce que vous êtes certain qu'elle est la personne ?
Ça, a priori, c'est ce qu'on me rapporte.
C'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit qu'elle est dispo.
Ah bah elle ne me... Elle me l'a pas dit. Bon, si vous voulez, bon, là, qui peut le savoir à la limite, mais bon, je pense que par l'intermédiaire de collègues, elle l'a rapporté, puisqu'elle a dû, j'ai eu écho, qu'elle ne souhaitait plus, dans son pays d'origine, nouer quelconque relation sentimentale avec un homme. Et justement, à ce propos-là, elle faisait allusion à moi en disant que j'étais quelqu'un de prévenant et que c'était pas comme les hommes dans son pays. Voilà.
Ok. Autre question, est-ce qu'il y a une quelconque hiérarchie professionnelle entre vous ?
Ah non, pas du tout.
Non. Elle a rien à craindre de ce côté-là ?
Ah non. Bon, là, elle est dans une situation, elle, de son côté, très très délicate en pays étranger, avec, on va dire, peut-être menacée professionnellement parlant, sûrement, ce qui l'a, à mon avis, lui cause énormément de chagrin. Bon, elle me l'a évoqué clairement par texto. Je pense qu'elle sait pas bien où elle en est, elle sait pas ce qui va se passer. Bon, elle est, je pense, elle est secouée, elle traverse la tempête avec, une pression et... Et potentiellement poussée vers la sortie, je dirais.
Qu'est-ce qu'elle vient faire en France ? Est-ce qu'elle est appelée à venir très souvent ou est-ce que...
Non, très, très rarement, dans la mesure où elle visite potentiellement quelques clients comme nous, puisque nous sommes, on va dire, des clients. Mmh. Voilà.
Donc rien n'est fait pour que vous la retrouviez régulièrement, en tout cas.
Ah bah ça, c'est délicat. Ouais. Bon, là, moi, si vous voulez, ce que je décrypte pas, c'est... Bon, il y a peut-être, je dirais, une différence de culture. Hein. Où est la frontière entre l'amitié et l'amour et comment le décrypter ? Bon, moi, je me suis suffisamment dévoilé en lui disant que j'aurais souhaité vivement la rencontrer, qu'elle me plaisait, que j'étais attiré. Bon, je l'ai flatté comme il se doit. Je pense avoir été clair là-dessus et pas avoir commis de faux pas ni brusquer la personne, mais
Jusqu'où vous avez été alors ? Jusqu'à dire, voilà, je veux te rencontrer, quoi d'autre ?
Ah bah, je lui ai pas dévoilé, on va dire, mes sentiments, mais je lui ai dit que c'était qu'elle me plaisait et que, oui, je souhaitais la rencontrer, que j'aurais mieux aimé la connaître.
Bon, mais est-ce que c'est explicite, ça ? Juste avant d'aller vers le futur, dans le passé, qu'est-ce qui a pu vous faire penser qu'il y avait quelque chose de possible quand vous l'avez vu la dernière fois ?
Bah, je l'ai vu en pays étranger récemment. Il y a déjà tout ce qu'elle rapporte à des collègues qui ont pu se déplacer, où elle dit du bien de moi. Et bon, j'ai eu un envoi par mail, on va dire, de photos personnelles.
Je vous parle quand vous étiez avec elle, en face à face.
Qu'est-ce
que vous avez ressenti ? Comment ça a pu se passer ? C'était des mots, des regards, des petits gestes ?
Alors moi, oui, des regards. Bon, elle m'a pris quand même la main à un moment donné, en sortie de restaurant.
Ah oui ?
Oui.
Oui, c'est pas anodin, ça, vous voyez ?
C'est pas anodin. Bon,
on ne fait pas ça avec un simple collègue de travail.
Comment ?
On ne fait pas ça avec un simple collègue avec qui on va manger.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est assez surprenant, si vous voulez, déroutant, parce que bon, c'est ce qu'on appelle, de ce que j'ai cru comprendre, le terme de friend zone quelque part. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. D'un côté, peut-être une amitié sur l'un des protagonistes potentiels d'une relation. D'un autre côté, quelqu'un qui est profondément épris. Et bon, il y a un sentiment peut-être de frustration pour la personne qui est éprise et qui vit. D'un autre côté, bon, on va dire, où on lui renvoie une image purement d'ami. Alors, où est la nuance entre l'amour et l'amitié ? C'est assez fin, quelque part. Voilà.
Mais est-ce que vous la connaissez suffisamment pour dire que vous êtes amoureux ?
Pas assez, très honnêtement, pas assez. C'est ça, pas assez. Bon, moi, je souhaite, si vous voulez, et j'essaie d'ouvrir le dialogue. Je sais qu'elle est sur un moment très difficile. Bon, ce qui se passe, j'ai vraiment très envie de la revoir. Bon, j'ai déjà dit, sur le ton de la plaisanterie, écoute, s'il faut affrète un charter, je viens directement. Je sais qu'elle est en peine actuellement. Alors, ce qui me surprend, si vous voulez, c'est que elle a parlé de moi à sa fille, peut-être en amie, ou je ne sais pas. Et bon, moi, j'ai aussi de mon côté un enfant. Et les deux ados correspondent maintenant. Alors, quelque part, elle a favorisé aussi le rapprochement.
Ce lien-là, oui.
Oui, je pense qu'on ne fait pas ça, on va dire, au premier abord, sur une personne, avec une personne qu'on a vue deux, trois fois. Bon, ça me surprend un petit peu, je suis un peu désarçonné. Alors, bon, je me méfie, si vous voulez, aussi énormément du niveau d'anglais, des traductions, parce qu'on passe par l'anglais, mais il y a une langue étrangère. Je me méfie énormément, on va dire, des traductions par et ordinateur.
Oui. C'est oui. Tous les deux, vous êtes tous les deux dans une langue étrangère, en fait.
Oui, oui, tout à fait. Oui, on n'a pas de langue commune, à part l'anglais qui nous relie. Bon, moi, je parle, je dirais, presque couramment anglais. Mmh. Oui, même, je pense avoir un bon niveau d'anglais et je m'exprime sans aucune difficulté. Bon, elle, c'est plus délicat, je pense, à l'écrit. Et voilà, alors, il y a le choix des mots, la subtilité de la langue anglaise aussi. Elle me parlait à un moment donné, et ça, bon, je l'ai relevé de friendship, donc de relations amicales. Ouais. Alors, est-ce que c'est une traduction d'une langue étrangère, ça passe par l'anglais et ça donne ce mot-là.
C'est vrai que c'est un peu ambigu, mais friendship, c'est quand même très clairement l'amitié. Après,
oui, je pense.
Vous dire relation et que ça a été traduit par amitié, mais ça devient un peu compliqué. Pourquoi est-ce que tout simplement vous ne lui posez pas la question « Est-ce que tu as des sentiments pour moi ?»
Je pense que c'est trop tôt et puis bon, je le fais avec beaucoup de tact. Je lui ai déjà dit au départ, elle a dû me dire à un moment donné, j'ai besoin de temps, je traverse une tempête au niveau professionnel, je vais t'écrire. Bon, il se trouve que bon, on correspond là de nouveau par texto. Bon, elle m'a mis ce soir, littéralement parlant, je traduis de l'anglais au français. Tu es un ami incroyable. Voilà.
Alors, elle a utilisé le mot ami à nouveau.
Oui, ça, je ne sais pas si globalement on en reste sur une relation amicale. Ce que j'ai du mal à cerner, c'est que bon, derrière, elle continue à m'envoyer des photos d'elle. Bon, je sais qu'elle n'est pas bien, qu'elle est brassée. Alors, est-ce qu'elle n'a pas le discernement? Est-ce qu'elle n'est pas prête? Est-ce que tout simplement elle est sur une relation purement amicale? Je ne le sais pas, parce que bon, elle me prend quand même la main en sortie de restaurant, il y a 2 mois. Elle avait manifesté l'envie à ce qu'à un moment donné, je vienne sur place avec mes collègues dans son pays d'origine. C'est un petit peu confus. Puis bon, elle m'envoie aussi des textos avec des smileys, des fois, avec des cœurs romantiques.
Ça, on a tendance à le faire un petit peu même avec les amis, mais ça, les photos qu'elle vous envoie, elle est comment dessus?
Alors il y a des photos où il y a une photo où elle est triste au premier de l'an, très triste, le visage grave et je pense les larmes aux yeux. D'autres photos où elle est avec sa fille, souriante la plupart du temps.
D'accord, ce sont jamais des photos aguichantes.
Ah non, pas du tout, non, c'est pas le style. Hein.
Mm. Non, mais ça pourrait se faire en toute élégance, hein, des photos un peu
ah oui, non, mais bon, il n'y a pas,
vous ne voyez pas un
côté aguicheur ou déplacé,
non,
c'est en toute sobriété et vraiment, je dirais, tout ce qu'il y a de plus classique.
Est-ce que vous avez l'impression que ce sont vraiment des sentiments que vous avez ou c'est la conquête qui vous excite un petit peu, cette conquête qui semble difficile?
Non, je pense pas que ce soit ça qui me fasse m'arrêter sur cette personne, loin de moi cette idée. Je pense que ce qui me séduit, bon, c'est sa profondeur, sa sensibilité de femme, tout simplement.
Mais dans l'absolu, dans l'idéal, qu'est-ce que vous souhaiteriez, sachant qu'elle vit dans un autre pays et qu'elle est en plus un
enfant ? Moi, je souhaiterais la rencontrer, bon, voir mieux la connaître déjà, avoir des moments de complicité, si tant est qu'il puisse être, je ne sais pas.
Mais
apprendre
après,
à la connaître, tout simplement.
Vous avez pensé à un scénario après ?
Moi, j'y pense. Elle avait évoqué à un moment donné, elle avait dû dire à mes collègues qu'elle souhaitait venir en France. Voilà.
D'accord, donc ça, ce sont des mots auxquels vous vous accrochez, que vous avez enregistrés.
Alors, c'est pas moi qui les ai reçus directement, ces mots-là. Je lui ai encore posé la question ce soir. Bon, je sais qu'elle traverse, comme je l'évoquais, un chaos professionnel. Je lui ai dit, écoute, t'as mon soutien, toi, je suis là, ne perds pas confiance en toi. Ce que tu vis n'est pas de ton fait. Voilà, je lui regonfle le moral à bloc et je la soutiens. Voilà, alors bon, ma crainte, c'est de tomber dans une relation purement amicale, ce que je ne souhaiterais pas personnellement, enfin tout du moins dans l'état d'esprit où je suis actuellement.
C'est-à-dire que là, en n'allant pas plus loin, vous vous enfermez un peu dans une position d'attente.
Oui, parce que je veux pas non plus la brusquer. J'ai bien ressenti qu'elle avait besoin de temps et pour réfléchir, pour prendre prendre du recul parce qu'elle est imprégnée et je pense largement secouée par des événements professionnels actuellement. Je pense qu'elle a besoin de respirer. Il y a de l'inquiétude pour elle, ce que je conçois tout à fait. Il y a des craintes sur l'avenir. C'est pas simple.
Oui, mais il me semble quand même qu'on peut parler de sentiments. Il ne s'agit pas de lui demander de s'engager pour la vie.
Non, non, non.
De savoir si, quels sont ses sentiments à votre égard. Et ça, je pense que ça n'a rien à voir avec le stress professionnel. Pour moi, le stress professionnel, ça peut influer sur ses décisions, de prendre des décisions, justement. Et vous ne lui demandez pas ça. Vous ne lui dites pas qui tout vient me rejoindre. Vous n'en êtes pas là. Mais quand même, savoir ce qu'elle a dans le cœur, quoi, tout simplement.
Oui, alors bon, j'ose peut-être pas. Je ne sais pas, parce que... j'aurais pu le faire si j'avais eu, je dirais, une personne en vis-à-vis de elle à moi. Bon, là, il y a la distance.
Là, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas.
C'est pas le cas.
Et avec de l'humour, vous savez, quelque chose comme si vous lui disiez « Et si je tombais amoureux de toi, qu'est-ce qui se passerait ?» avec un petit smiley qui rigole.
Oui, je peux.
Sous couvert d'humour, quelquefois, on peut faire des...
Ah, mais sous couvert d'humour, j'ai déjà essayé. Hein,
vous avez dit quoi, par exemple?
Oh, je lui ai dit que... J'ai dû lui dire des choses. J'ai eu des photos où elle était assise sur un fauteuil. Je lui ai dit tu es une très belle princesse assise sur un trône qui attend de devenir reine, hein, tout simplement. Voilà, elle sait, je pense, ce que j'éprouve. J'ai été assez clair. Le problème, c'est qu'elle répond par bribes de phrases. Et c'est un petit peu ce qui me pose ce questionnement. Dans l'échange, tout du moins, il est uniquement à ce stade-là par écrit. Elle ne se projette pas, elle ne se dévoile absolument pas.
Vous mentionnez beaucoup les autres, les amis, les collègues qui vous ont rapporté des choses qu'elle a pu leur dire. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces gens-là, si vous confiez à eux ?
Oh, bah, je pourrais éventuellement. C'est peut-être ce que j'aurais peut-être besoin d'un éclairage à ce niveau-là.
Puisque vous me dites qu'elle se confie à eux, puisqu'ils vous parlent d'elle ensuite.
Oui, parce que... Oui. Elle s'est confiée, oui, je pense, oui.
Parce que
oui.
Quelquefois, le regard extérieur de quelqu'un qui vous connaît tous les deux est intéressant.
Peut-être bien, c'est ce que je pensais là tout à l'heure.
Quand il n'y a pas d'implication personnelle, quelqu'un qui est objectif peut vous dire, écoute... laisse tomber, ou alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose, vous voyez, quelqu'un qui est en lien direct avec elle.
Oui, mais j'ai été bousculé par mes collègues là-dessus, gentiment. Je ne vais pas dire charrié, mais bon, quelque part...
Qu'est-ce que vous craignez ?
Là, un échec, tout simplement, de non-aboutissement. Faut être clair. Hein.
Le problème, c'est que ce n'est pas en ne posant pas la question... que vous allez éviter l'échec.
Exact.
Et que quelquefois, les vérités qu'on aime le moins entendre, c'est souvent celles qu'on a le plus d'intérêt à savoir.
Je pense. C'est là où j'en suis. Mais j'ai provoqué, encore une fois, le dialogue ce soir. Hein. J'ai envoyé un texto en la poussant un peu plus dans ses retranchements. Mais bon, j'ai au bout, en échange, j'ai 4 lignes de texte. Voilà.
Et oui, ça veut dire qu'elle a pas. Alors maintenant, ce qu'on peut, on peut pas interpréter, on peut constater. Ce qu'on peut constater, c'est qu'elle a pas envie pour l'instant ou qu'elle n'est pas disponible pour aller plus loin. Ce qui veut pas dire qu'elle a pas de sentiments. Mais le meilleur moyen de le savoir, c'est de lui demander. Parce qu'il faut être très clair, hein, François. C'est les choses sont simples dans ce domaine-là.
Alors moi, j'ai une autre vision, si vous me permettez.
Dites-moi.
Je pensais à un moment donné mettre ça sous le coude de la timidité. Les personnes timides ne vont pas s'exprimer, vont pas se dévoiler, vont pas prendre, je dirais, l'initiative. Moi, je suis prêt à prendre l'initiative, j'ai toujours pris mes responsabilités. Je suis prêt à le faire. Bon, simplement, j'ai quand même de la pudeur par rapport à ce qu'elle vit actuellement. Je veux pas aller trop vite non plus. Je veux pas la bousculer, ni, je dirais, lui mettre peut-être potentiellement une... Je ne vais pas dire une pression, je ne sais pas.
Je vous suis pas sur le côté mettre la pression, parce que je vous conseille pas de lui demander
quelque
chose.
Elle m'a déjà dit, oui, elle m'a déjà dit, laisse-moi du temps, je vais t'écrire, j'ai besoin d'évacuer par rapport à ce qu'elle vit professionnellement. Voilà.
Ah, mais elle
m'a dit,
écrire...
on reste en contact, c'est promis. Voilà.
Oui.
Alors, c'est pas clair, c'est pas... Elle met en contact, bon, on va dire, des ados de part et d'autre.
Oui, il y a des signes contradictoires dans son comportement.
Qui pourraient être potentiellement, je dirais, soit, on va dire, un échange bénéfique pour deux adolescents, premier point. Et c'est un premier choix qui se défend, qui est tout à fait recevable. Soit on peut l'interpréter différemment, avec une notion... je ne sais pas, peut-être de rapprochement familial ultérieur, je n'en sais rien, pour voir si... Voilà.
François, je propose qu'on fasse une courte pause.
J'en prie.
Et on reprend cette conversation dans un tout petit instant.
J'espère qu'on ne va pas être coupé avec un téléphone sur pile, mais bon, je tiens le coup.
Ça va être très rapide, ne bougez pas, je vous récupère.
Merci.
Merci à vous, à tout de suite. François, vous êtes toujours là ?
Là.
Bon, c'est parfait.
Merci.
Vous savez, je pense quand même qu'au début d'une histoire, même si on ne parle pas d'amour forcément, au début d'une histoire, les choses doivent être fluides.
Alors, oui.
Peut-être que vous n'avez pas envie de l'entendre, mais quand ce n'est pas fluide, c'est que ce n'est pas une vraie histoire, pour l'instant.
Alors, je ne sais pas, parce que ce qui me pose souci, c'est que, bon, elle correspond. Bon, le problème, il y a ce problème déjà de langue, peut-être de culture. Je pense que je vais lui poser directement la question, effectivement, sous le coup de... sur un ton humoristique, comme vous le soulignez tout à l'heure. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est, bon, je dirais, le peu de messages de sa part, finalement, et le manque de dévoilement. Bon, je pense avoir été clair, on va dire, dans l'échange. Je n'ai pas le retour, on va dire, que j'escompterais.
Eh bien, l'option, c'est que peut-être elle a justement besoin d'un ami qui connaisse son environnement professionnel pour la soutenir en ce moment, mais qu'elle n'a pas envie de plus.
Peut-être.
Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je n'ai pas envie que vous fassiez du mal en...
Non, je cherche à me protéger
voilà,
aussi.
En faisant des scénarios, en vous attachant à quelqu'un qui peut-être ne vous donnera pas ce que vous souhaitez. Peut-être que oui, j'en sais rien, mais a priori, pour l'instant, elle ne m'a pas l'air prête à vous donner ce que vous espérez, en tout cas.
Mm-hmm.
Peut-être parce qu'elle est en priorité en train de gérer ses soucis professionnels, peut-être simplement
crois,
parce
oui,
qu'elle n'a
oui,
pas... Elle n'est pas dans cette relation sentimentale avec vous, j'en sais rien. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas rester à attendre, à espérer et à imaginer parce que vous allez finir par être amoureux du fantasme plutôt que de la réalité.
Ah oui, non, mais je ne veux surtout pas rentrer dans quelque chose de virtuel, ni, on va dire, une relation épistolaire. Si jamais ça devait ou ça pouvait se faire, bon, à un moment donné, il faut rencontrer la personne, c'est évident. Voilà. Maintenant, effectivement, j'ai pas envie de me faire mal non plus. Alors, ce qui me pose souci, c'est que, bon, j'ai quand même, moi, personnellement, des sentiments. Je sais ce qu'elle traverse. Et ce qui me gênerait, si vous voulez, c'est de rester, on va dire, dans cette relation, on va dire, où je la soutiens, finalement, parce que je peux pas la laisser tomber comme ça. Et là, auprès de moi, je pense, du réconfort, elle me l'a dit. Voilà, je ne peux pas non plus couper les ponts brutalement.
Hein. Vous ne seriez pas du tout d'accord pour être juste un bon copain ?
Je ne crois pas pouvoir l'envisager. Non.
On a quelqu'un qui nous envoie un SMS qui nous dit pourquoi toujours des textos ? Pourquoi est-ce que vous ne l'appelez pas au téléphone ? À travers la voix, les choses paraissent plus transparentes.
Effectivement, oui. Bon, il y a aussi, je pense, un problème linguistique. Alors, je ne sais pas si elle est prête à assumer, on va dire, un échange téléphonique. Il faudrait effectivement passer par là ou peut-être en visio, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, elle ne l'a pas suggéré à ce stade-là. Moi, je l'ai pas, j'ai pas non plus manifesté le désir par pudeur parce que c'est quand même assez récent. Mais je pense qu'il faudrait éventuellement évoluer. Il faudrait que je pose que je lui pose carrément la question. Hein.
J'ai l'impression, parce que pour l'instant, tout ça m'a l'air un peu fragile. Il ne s'est rien passé de concret.
Ah bah non, mais c'est évident. Hein,
elle ne répond pas vraiment à votre attente.
Non.
Et vraiment, voilà. Alors, on a Thierry qui nous dit « L'attitude que vous avez vous mène directement dans cette friend zone dont vous ne voulez pas, dont vous parliez tout à l'heure.
Oui.
Il gagnerait à être moins impliqué. » Et laisser
oui,
venir.
Absolument, surtout, mais il faut s'en détacher.
Voilà,
mais bon,
si vous avez du mal sentimentalement, c'est ça que...
J'ai du mal parce que je vois une personne qui souffre. J'avais un échange ce midi d'une personne qui me disait qu'elle était en pleurs et qu'elle pleurait depuis une semaine. Ça me brasse intérieurement. Hein. Je peux pas fermer les yeux là-dessus. Si vous voulez, ça me remue. Hein.
Comment vous étiez, François, dans vos histoires d'amour avant ? Comment ça se passait ?
Bonne question. Je pense quelqu'un de prévenant, à l'écoute, disponible, bon, parfois aussi égoïste, hein, je le reconnais, mais très impliqué en tout cas.
Et votre plus longue relation avec une femme a duré combien de temps ?
Presque 10 ans.
10 ans, d'accord. Et au début, comme ça, quand vous rencontrez une femme, vous êtes toujours aussi prudent et aussi, je dirais, chevaleresque, en prenant tellement votre temps, en laissant les choses se faire, en
insistant.
Non,
j'ai tendance à m'enflammer, au contraire. Voilà, ce qui me pose problème ici, c'est la distance.
Eh oui. Il y a trois problèmes de votre histoire. Il y a le fait que, en fait, vous ne la connaissez pas, cette jeune femme.
Je ne la connais pas suffisamment.
Il y a une distance géographique et il y a une distance linguistique.
Oui.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup.
Et malheureusement, là, les subtilités entre la distance et la langue, ça va être compliqué de les gérer. Donc effectivement, je pense qu'il faudrait être un peu plus rentre-dedans, pas du tout dans le côté, en l'obligeant à quoi que ce soit, mais rentre-dedans dans la sincérité de ses sentiments. Lui dire carrément, peut-être un jour, est-ce que tu penses que notre relation pourrait évoluer vers quelque chose d'autre ? Juste ça.
Oui, je pense.
Mais il faut être prêt à entendre la réponse.
Ah oui, non, mais je suis prêt, hein, parce que je ne peux pas non plus... continuer, on va dire, à espérer. Bon, je sais qu'elle traverse quelque chose de dur là actuellement. Elle n'est pas prête, je pense, non plus à s'ouvrir peut-être sur une relation sentimentale. Il y a d'autres priorités à gérer pour elle.
Ça, je le comprends, mais ça n'empêche pas.
Est-ce que maintenant, c'est le moment de lui poser la question ? Pour lui, est-ce que ça va pas la déstabiliser non plus ?
Moi, je pense que c'est plus la peur d'entendre la réponse qui vous fait dire ça. Parce que je ne vois pas en quoi ce qui lui arrive professionnellement peut l'empêcher de parler de ses sentiments. Qu'elle vous dise ensuite « je ne veux pas m'engager tout de suite, je ne peux pas te promettre quoi que ce soit », ça peut se comprendre. Mais si elle a des sentiments, elle les a ou elle ne les a pas pour vous. Ce n'est pas parce qu'elle a des problèmes de boulot qu'elle n'a pas de sentiments ou qu'elle en a inversement. Pour moi, ça n'a rien à voir.
Oui, mais enfin bon, d'un autre côté, il y a cette timidité des personnes qui se dévoilent, on va dire, tardivement, ou qui n'osent pas non plus parler d'elles, s'ouvrir.
Ça fait combien de temps que vous échangez comme ça par SMS ?
Oh là, on échange depuis... Alors, on échange depuis fin novembre.
Oui.
C'est récent, hein ?
Oui, j'allais vous dire, ça fait longtemps, mais comme quoi... C'est une question de point de vue.
Non, mais on échange réellement depuis, très honnêtement, depuis, alors de façon assez suivie, assez soutenue, depuis Noël à peu près. Voilà, il y a eu un premier contact, on va dire, qui s'est fait courant novembre, voilà, suite à une rencontre dans un contexte pro. Voilà, et puis, au jour d'aujourd'hui, on est là.
On a plein d'auditeurs qui nous envoient des messages pour nous dire, voilà, allez-y, quoi. Il y a quelqu'un qui nous dit, à force de mettre des gants, il va perdre du temps, il faut aller à l'essentiel. On a Libéral
qui
pense,
nous dit,
notre ami devrait lui dire ce qu'il pense à cette jeune femme.
Je lui ai dit déjà, mais je n'ai pas eu cette réponse, clairement.
Et je n'ai pas l'impression que vous lui ayez dit clairement non plus.
Alors peut-être qu'il faut que je lui dise clairement, oui.
Peut-être que vous avez eu l'impression, vous, de vous dévoiler, mais qu'une fois de plus, entre ce que vous pensez, ce que vous avez dit, ce qui était traduit à l'anglais, est-ce qu'elle a
clairement
compris de l'autre côté, voyez ?
Oui, je vais laisser passer un ou deux jours et puis je vais la rappeler. Bon, je vais lui dire clairement, effectivement, sur le ton humoristique, et si je tombais amoureux, qu'est-ce que tu en penses ? Tout simplement.
Alors, on verra si sur le ton humoristique, elle botte pas en touche encore une fois.
Oui.
Mais si elle botte en touche encore une fois, il faudrait vraiment là être très clair et lui dire, voilà, écoute, est-ce qu'un jour tu penses qu'il y aura quelque chose entre nous ou pas ? Qui est-ce que je suis vraiment pour toi ? Est-ce que je suis un ami ?
Oui, mais je vais poser la question, oui.
Mais je pense qu'il faut savoir, juste savoir, parce que vous risquez après d'être de plus en plus malheureux et de plus en plus attaché.
Je pense. Et je retiens les conseils, merci beaucoup.
C'est pas le but, quoi. Le but, c'est que vous soyez heureux d'une manière ou d'une autre. Soit vous vous libérez d'elle
et vous donnez la
chance de rencontrer quelqu'un avec qui vous vivez vraiment quelque chose, soit ça démarre avec elle, mais il faut qu'elle s'ouvre, quoi. Elle peut pas vous
maintenir
dans une espèce de distance.
Bon, d'un autre côté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour que je m'arrête vraiment sur quelqu'un au jour d'aujourd'hui, c'est, je dirais, très très rare. Voilà. J'en suis là et ça me pose questionnement et voilà, tout simplement.
Qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas ?
Je peux pas vous dire. Je l'explique pas.
Mais vous m'avez quand même dit aussi que vous êtes du genre à vous emballer.
Oui.
Et oui. Est-ce que ça vous a déjà joué des tours, ça, avant ? Est-ce que vous
avez vécu des choses... Non, pas véritablement, non, je ne pense pas. En tout cas, bon, le constat que je fais, je suis pas de nature timide, hein, je suis assez ouvert. Le constat que je fais, c'est que c'est la première fois que je rentre, on va dire, dans un contexte d'ambiguïté comme ça, un petit peu de friend zone, hein, de flou artistique entre une amitié potentielle et un flirt ou un début d'histoire sentimentale. C'est assez confus.
Ça fait, voilà, ça fait pas un peu ado comme relation ?
Non, parce que clairement, il y a des, je pense qu'il y a des adultes qui le vivent, et il y a des histoires, on va dire, d'amour qui démarrent, même des fois, entre des personnes qui étaient amies.
À propos d'ado, vous me disiez, c'est un fils que vous avez, vous, ou une fille ?
Oui, un fils.
Et elle a une fille ?
Oui.
Et par votre fils, vous n'avez aucune info ?
Non.
c'est pas un peu tentant d'envoyer le fils à la
ça
pêche
pourrait,
aux infos ?
Ça pourrait. Ça pourrait. Mais oui, ça peut. Oui, effectivement.
Est-ce que vous êtes complice avec votre garçon ?
Oui, quand même un minimum.
Au point de lui dire un petit peu ce qui se passe pour vous ?
Il le sait.
Ah.
Bon, il l'a bien vu quand j'étais là, et puis il le sait très bien.
Et qu'est-ce qu'il en dit, lui ?
Il dit rien.
Il prend pas de risque, il veut pas se mouiller ?
Comme ado, non, 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 mais si, il correspond en tout cas, beaucoup plus. Il a beaucoup plus d'ouverture, je pense, au dialogue avec une ado en vis-à-vis que moi je ne peux l'avoir en termes d'ouverture avec une femme adulte.
Ce serait le comble qu'ils aient une relation tous les deux finalement.
Oui, effectivement.
La vie est farce quelquefois. Mais du coup, il communique en anglais avec sa fille ?
En anglais, mais alors c'est extrêmement formateur parce que bon, les deux ados avancent sur l'anglais, je pense.
Oui.
Voilà. Mais ce que je comprends pas, si vous voulez, c'est déjà pourquoi cette femme incite à un rapprochement entre deux ados, pourquoi j'ai ces photos.
Voilà, on a quelqu'un qui nous envoie un message en disant pareil, elle est timide mais elle vous prend la main, elle est timide mais elle vous envoie des photos. Donc c'est vrai qu'il y a quand même... C'est pour ça qu'à un moment donné, poussez-la un petit peu plus loin dans ses retranchements.
Ben, je vais y aller. Je vais prendre mes responsabilités. De toute façon, je ne resterai pas comme ça, c'est évident.
Ben voilà, vous êtes en grand écart, là. Ce n'est pas confortable.
Non, 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 mais...
Donc
je
c'est
crois
soit,
que,
ami,
bon,
soit,
de toute façon,
soit ami, soit amant.
Non, non, ce n'est pas confortable. Mais il y a beaucoup de gens qui le vivent. Hein.
Et vous n'avez pas envie de vivre.
Il n'y a qu'à taper le mot « friendzone » sur Internet et regarder. Il y a des coachs en accompagnement... je crois, psychologique et sentimental.
Oui, je sais que c'est la grande mode.
C'est la grande mode. Bon, après, voilà, bon, réellement, moi, je ne suis pas prêt à assumer du tout une relation d'amis. C'est ce qui me pose problème.
Oui, j'ai bien entendu. Donc, c'est pour ça que je dis, ne restez pas en grand écart comme ça.
Oui. Alors, la façon de le gérer, c'est là qui me, pour conclure, où ça me pose souci, si vous voulez. C'est à la limite, je vais chercher la réponse et je pense de toute façon que je vais devoir aller la chercher intelligemment et je le ferai. Mm-hmm. Partant de là, si je suis, comme on dit vulgairement, un râteau, pour parler un petit peu crûment, c'est comment gérer derrière, on va dire quand même, une personne qui est secouée et qui trouve vraiment du réconfort auprès de moi.
Si vous vous prenez un râteau, vous me rappelez et on en reparle.
Oui.
D'accord.
Oui, d'accord, merci.
Il faudra que je vous
merci
laisse
de l'accueil, merci de
infos.
Votre écoute, merci pour ce que vous faites.
Merci de votre appel à vous.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Passer ensemble sur cette libre antenne et quel que soit le sujet que vous souhaitez aborder, vous pouvez continuer à nous appeler au 3921. Amandine et Hassan sont disponibles, ils sont là au standard pour vous accueillir et vous accompagner jusqu'à moi. Pour participer à l'émission par SMS, pour réagir, pour entrer en contact avec les gens que vous entendez témoigner, c'est facile, vous faites le 739-21. En commençant bien par le mot nuit, vos SMS sont importants, vous le savez, et régulièrement ils nous permettent de vous mettre en relation ou simplement de communiquer vos messages, vos mots, vos conseils. 3921 par téléphone, 739-21 commençant par le mot nuit, par SMS. 23h, 1h,
La Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est Daniel que j'accueille maintenant sur notre Libre Antenne. Bonsoir à vous, Daniel.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Je suis contente de vous avoir parce que j'avoue que je suis dans un état de stress énorme. J'ai dit à Hassan, je suis une personne de 75 ans,
oui.
Mais je n'ai jamais, jamais été gâtée dans le domaine de la maladie. Et là, je pars dans 2 jours. De la Champagne-Ardenne, je vais à Paris dans 2 hôpitaux différents.
Oui.
Je dois me faire avec un appareil nouveau un test dans la tête parce que j'ai une maladie qu'on connaît, qu'on appelle une maladie rare, on en a parlé. J'ai eu des chercheurs du Généton très gentils parce que je veux savoir. Toujours je veux savoir, et qui m'ont dit qu'on allait me mettre donc des appareils électriques, mais il faut signer un papier avant d'aller voir ce qui se passe dans mon cerveau. Et moi, je dis qu'à l'âge que j'ai conscience que nous perdons de la mémoire, de la connaissance, et j'ai très, très, très peur que cet examen ne m'abîme et que je ne puisse plus me souvenir de ce que j'adore faire, de contacts que j'ai avec des enfants, parce qu'à un moment donné, j'ai été une partie de ma vie enseignante. Et puis, j'ai perdu une jeune fille, ma fille la dernière de 26 ans, et à sa demande, elle était jeune mariée. Elle m'a demandé de prendre en charge son cancer à domicile. Et un des professeurs qui me soigne à l'heure actuelle m'a dit, vous savez, votre corps explose à l'heure actuelle. Alors je voudrais trouver auprès de mes deux aînés qui avaient 8 ans et 9 ans de plus, de trouver de l'aide, de l'affection. J'en ai une, elle me la montre, mais elle est hôtesse de l'air. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Elle n'est pas là, je ne peux pas exiger de l'avoir près de moi. Et l'autre, bon, son lieu de résidence, c'est en Touraine. Mais elle est très, très, très dure. Et là, je n'ai jamais, jamais autant pleuré. Parce que mes enfants, c'est tout pour moi. Mais c'est cette terreur que j'ai d'être handicapée mentale.
Alors attendez, parce que je comprenne bien, cet examen que vous allez passer, est-ce que c'est ce qu'on appelle un PET scan?
Je l'ai fait, mais là, ce qu'on va me faire, c'est plus compliqué que le PET scan.
Parce que le PET scan ne représente aucun danger. Hein.
Voilà, alors c'est pour ça que je suis très, très anxieuse, parce que j'essaie toujours de lire dans le Vidal. Je ne lis pas des magazines qu'on vend dans le commerce. Je lis dans le Vidal. Mais, excusez-moi. Mais là, ce qui me fait très, très peur, c'est que j'ai la maladie de Horton. Et cette maladie, eh bien, en France, elle n'est pas soignée encore. Il y en a qui se disent, potentiellement capable de faire avancer la chose, mais je sais que par exemple en Angleterre, j'ai une amie qui vient d'aller y séjourner, qui a eu des personnes, des Anglais qui parlaient. On opère cette chose-là, donc c'est une intervention, et on demande 40 000 euros. Alors déjà, avec le non-remboursement de mon transport, parce que je suis au-delà de 150 km, je ne peux même plus me soigner. Mais j'ai 3 maladies en même temps. J'ai la fibromyalgie, j'ai la polyarthrite rhizomyélique, et j'ai donc cette maladie de Horton qui me fait atrocement souffrir la tête.
Quels sont les symptômes les plus difficiles pour vous?
Je deviens aveugle. Je perds la vue.
Oui.
Et puis donc, les plus difficiles, ben, c'est comment, sentimentalement, ce sont mes enfants. Je, comment dirais-je, je voudrais parler, pouvoir parler à cœur ouvert. Est-ce qu'elles ont peur de ce qu'elles n'ont pas pu voir de leur petite sœur et que je n'ai pas su, moi, leur dire? Il y en a une qui accouchait de son dernier enfant et l'autre en avait deux enfants qui avaient déjà un peu plus grand, mais peut-être se sont-elles pensées oubliées par moi et je ne pouvais pas me couper en plusieurs morceaux.
Mais bien sûr, vous avez dû vous occuper en priorité de celle qui allait mal.
De tout mon cœur.
Est-ce que vous avez pu parler de ça avec vos enfants qui sont là ?
Non, ils ne sont pas près de moi. Et...
Non, mais depuis le temps que c'est arrivé, cet événement, est-ce que vous avez pu vous poser un jour et leur dire ça ?
Je me suis, moi, fait interroger. J'ai été préparée à suivre la petite sans faire de fausses notes. Je suis allée dans un centre de préparation psycho-cancérologique à Paris. Et donc, j'ai vu des malades, j'ai vu des gens en rémission, j'ai vu des gens guéris. Mais moi, on m'a dit avec une grande brutalité que c'était la mort de la petite qui m'attendait. Et je ne savais plus comment faire pour cacher la vérité. Et je n'ai jamais trouvé qu'un moyen, c'est d'écrire. J'ai écrit un livre. Et puis là, depuis qu'on m'a annoncé cette horreur pour moi, j'aurais voulu avoir mes deux grandes ensemble et qu'on puisse en parler, mais je ne peux plus me transporter comme je le faisais. Et ma fille qui réside en Touraine et qui a des adolescents ne m'a jamais redemandé depuis 7 ans où on m'avait déclaré la fibromyalgie, ne m'a jamais redemandé de venir près d'elle, alors que je sais par exemple que l'hôpital de Tours a tous les services qui pourraient me soigner chaque maladie à un moment présent, à un moment particulier, et que je serais protégée sans être chez ma fille, vous comprenez, en étant hospitalisée.
Alors, il y a beaucoup de choses, Daniel, dans votre témoignage. Vous avez commencé la conversation en parlant d'un examen qui vous faisait peur.
Oui.
Là, sur ce terrain-là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que le médecin qui vous a prescrit cet examen est là pour vous rassurer, vous en parler. C'est à lui que vous devriez poser des questions. Comment ça se passe? Quels sont les risques?
Ben, disons que je n'aurai que quelques heures pour la préparation de cet examen. Et j'arrive, le matin, on va me faire lever parce que je suis dans un autre hôpital.
Non mais ça c'est une autre histoire, la préparation, la durée, tout ça, c'est pas ça qui est important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça, cet examen vous angoisse, est-ce qu'il y a des raisons, est-ce qu'il y a des risques ou pas?
Et je n'ai jamais rencontré encore cette personne que je vais voir.
Non mais ça, le médecin qui vous a prescrit cet examen, vous pouvez parler avec lui?
C'est mon médecin traitant et il était lui pour qu'on fasse cela dans les Ardennes. On n'a pas dans les Ardennes, on n'a aucun professionnel de santé qui soit armé. Et malheureusement, je vais vous dire, mes médecins entre eux échangent des courriers. Et ce médecin, mon généraliste que j'ai depuis très longtemps, a fait un courrier précédemment dans lequel il mettait qu'il faudrait me mettre dans une maison spécialisée pour les personnes qui n'ont pas Alzheimer, mais qui ont la tête qui s'en va, alors que ça venait, c'était des conséquences que ma vue était abîmée par cette maladie-là.
Alors, j'ai deux personnes qui viennent d'envoyer des messages pour vous, Daniel.
Oui.
Il y a Géraldine qui dit « Ma mère a été totalement guérie de la maladie de Horton sans aucune séquelle après 2 ans de cortisone. » Et il y a Igmar qui nous écrit « J'ai cette maladie depuis 2015. Je suis soignée par cortisone. Même si je reste fatiguée, on n'en meurt plus. Il ne faut pas qu'elle ait peur. »
Eh bien, voilà. Eh bien, je savais la cortisone. cortisone, je l'ai vu en cherchant dans le Vidal, mais dans les Ardennes, je suis la seule. Je suis la seule. J'ai demandé au médecin, mais combien avez-vous de patients qui ont cette maladie? Aucun.
Oui, Daniel, excusez-moi, parce qu'on parle en même temps dans le casque pour vous dire qu'on a Igmar qui vient de nous appeler, qui est en ligne avec nous. Si vous voulez bien, on va écouter ce qu'elle nous dit sur cette maladie.
Oui, absolument.
Igmar, excusez-moi, comment vous prononcez votre prénom? On va faire simple.
Irmgard.
Et
oui.
D'accord.
Voilà. Mais j'ai entendu cette personne qui s'inquiète énormément.
C'est Danielle qui vous entend. Elle est en ligne avec nous, là.
Oui, je suis en ligne.
Oui, bonsoir, Danielle. Oui, je souffre
bonsoir,
de la...
Bonsoir, ma belle.
Je souffre de la maladie d'Horton. On a découvert cette maladie chez moi en 2015.
Oui.
Et je suis traitée par la cortisone, uniquement la cortisone.
Mais on ne peut pas la donner longtemps, je crois.
Ah ben écoutez, je l'ai depuis, hein, ça fait plusieurs années déjà.
Et alors vous voyez.
J'ai 78 ans.
Bon, j'en ai 75, alors...
Eh bien, je suis votre aînée. Je suis votre aînée. Et je vous assure que les examens pour soigner et pour être sûr que ce soit bien la maladie d'Horton ne font pas mal.
Non, je sais, on m'a fait on m'a fait
les PET scans.
On m'a coupé dans les artères temporales.
L'oreille, oui. Moi aussi.
Oui.
Et dans cet examen, on prélève un tout petit bout de l'artère qu'on analyse et on découvre que c'est la maladie d'Horton.
Oui.
Mais cette maladie se soigne très, très bien par la cortisone et uniquement la cortisone. Voilà. Il ne faut pas vous inquiéter. Ça se soigne...
Disons que parce qu'il y a la fibromyalgie en même temps qui fait abominablement souffrir.
Oui.
Je n'ai plus les muscles, je n'ai plus les tendons. Moi qui aime marcher, je ne peux pas marcher.
Ah,
et j'ai perdu la vue en même temps. Donc, je perds par moment. C'est les policiers qui me ramènent chez moi. Donc, je n'étais pas cette personne négative, vous voyez.
Daniel, on va reprendre cette conversation toutes les deux parce que j'aimerais justement vous dire certaines choses à propos de ce qui vous arrive.
Allez-y.
Merci Irmgard pour votre appel et témoignage.
Je vous en prie.
Et puis, prenez bien soin de vous.
Au revoir, mesdames.
Merci, au revoir. Oui, Daniel, je voulais vous dire, vous savez que toutes ces maladies-là qui vous pourrissent la vie depuis des années, ce sont des conséquences. Et ce sont des conséquences d'une grande souffrance qui est probablement liée à ce qui s'est passé avec la perte de votre fille. Il me semble que le
professeur qui me voit depuis 13 ans m'a dit, vous savez ce que vous avez, votre corps, il explose.
Oui, mais votre corps, il explose parce que moralement, psychologiquement, vous avez été...
Il y a trop de solitude.
Il y a eu trop de solitude et trop de souffrance, et je pense que vous n'avez pas fait le deuil non plus de cet enfant.
Peut-être bien.
Et c'est votre cœur, c'est votre quand le médecin dit le corps explose, moi je dirais que c'est le cœur qui explose.
Peut-être, même sûrement.
Est-ce que vous avez fait une thérapie? Est-ce que vous avez été suivi par un psychologue quand vous avez été en deuil?
Oui.
Vraiment?
Mais disons que j'étais très 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 bien avec le psychiatre et une dame, une psychologue qui venait même chez moi. Et puis elle savait. Il m'apercevait dans la rue, elle me voyait encore sortir, elle me disait « Oh ben je vous ai vu par exemple aujourd'hui, vous étiez belle et tout. » Et puis elle m'annonçait un jour comme ça, elle vient puis elle me dit « Il faut que je vous dise quelque chose, mais c'est pas agréable. » Elle dit « Je suis en retraite dans un mois. » Alors je dis « Mais vous allez loin, vous êtes dans la région. » Elle me dit « Non, je suis normande. » Donc j'ai dit « Tant mieux pour vous. » Et puis je me disais « De temps en temps, on arrivera à avoir des échanges. »
Non, c'est pas ça qu'il vous faut, Daniel. C'est pas de temps en temps des échanges avec une psychologue à la retraite. C'est vraiment d'être accompagné par quelqu'un. Parce que là, sur le plan médical, je peux rien faire pour vous. On vous a rassuré sur le fait que la maladie de Horton se soigne. Mais je peux vous garantir que ce soit la maladie de Horton ou la fibromyalgie, ce sont des conséquences d'une grande souffrance. Et sur cette souffrance-là, vous pouvez travailler émotionnellement.
D'accord.
D'accord.
C'est vraiment important parce que...
Et ça, mon médecin ne le comprend pas.
Oui, mais c'est pas forcément son rôle. Il est pas psychiatre.
C'est une grande souffrance.
Et oui, mais lui, il est là pour s'occuper des symptômes physiques.
Vous savez ce que j'ai entendu ? Je vous appelais vraiment parce que je suis baptisée par deux médecins dans le biais comme une malade imaginaire.
Oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, parce que beaucoup de médecins ne s'intéressent qu'au corps et qu'aux symptômes médicaux.
Voilà, voilà.
Il y a encore une catégorie de médecins qui sépare les choses en deux. Or, moi je suis persuadée que nous ne sommes qu'un, et que le corps et l'esprit vont ensemble. Et que quand le cœur saigne, c'est le corps qui va mal.
Alors,
votre corps, vous allez le réparer avec des traitements qu'on va vous donner, mais votre cœur, il va falloir le soigner avec une thérapie.
D'accord.
Il va falloir vous confier, il va falloir travailler sur ce deuil, sur cette culpabilité que j'ai entendue aussi tout à l'heure. Je pense que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour accompagner vos enfants. Celle qui allait mal avait plus besoin de vous que les autres. C'est normal.
Disons que je vous ai dit donc que j'avais écrit ce livre et la petite, alors qu'un jour ses beaux-parents étaient venus s'installer chez elle, la mairie de la ville, de la région parisienne où elle habitait, m'avait prise en amitié parce qu'il y avait une dame qui, dont le petit garçon se battait contre le cancer aussi, et il me prêtait une chambre dans une résidence pour personnes âgées. Donc j'étais entourée là. Et à cette époque-là, je vais dire que j'ai donc déménagé mes affaires. Et puis un jour, la petite malade m'a dit « Maman, je voudrais que tu m'emmènes à Vincennes. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'on irait faire à Vincennes ? Il fait froid, ma chérie. » Elle me dit « Tu veux bien m'emmener ? Je me sens assez. Tu as ta voiture, tu veux bien m'emmener ?» Et puis on s'est garé à un endroit, puis elle me dit « Viens ». Et puis on était devant une grande avenue avec beaucoup de personnes qui faisaient leurs achats. Elle s'est arrêtée au milieu de la rue. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit « Mon Dieu, si tu savais, maman, comme je t'aime !» Et je me suis dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié mon livre et elle l'a lu. » Alors je suis partie voir la psychiatre et je lui ai expliqué. Elle m'a dit « Mais vous n'avez rien vu de particulier. » J'ai dit « Je ne fais jamais de faute d'orthographe quand j'écris. » Et alors elle m'a dit « Je dis là, je suis tellement en détresse, en larmes quand je reviens. » Qu'elle était opérée, qu'elle est à l'hôpital, qu'elle n'est pas chez elle, qu'elle a sa belle famille. Elle me dit alors, et bien je lui dis, les fautes d'orthographe sont corrigées. Et elle m'a dit, que corriger ? J'ai dit non, j'écris toujours à l'encre noire. Elle est corrigée à l'encre bleue. Et elle m'appelait cette personne, Daniel. Elle m'a dit, Daniel, il faut vous dire que dans ce livre, ce sont tous ces mots d'amour qu'elle vous donne.
Mais oui.
Alors.
Respirez. Prenez le temps de respirer, Daniel. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause, que vous puissiez prendre un verre d'eau, respirer un peu ?
J'ai bu un verre d'eau. Merci, Smine. Merci.
Oh, si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale. Prenez le temps de respirer tranquillement et on reprend cette conversation dans deux petites minutes, d'accord ?
D'accord.
Je suis avec vous. Je ne vous quitte pas. Je ne suis pas loin, d'accord ? Daniel, vous êtes là ?
Je suis là, merci ma pote, merci.
Bon, j'entends que ça va un petit peu mieux.
Oui.
Vous savez, vraiment, Oui, dites-moi.
J'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai respiré parce que chez moi, c'est déjà ça la souffrance, je me recroqueville et puis j'arrive pas à prendre de l'air.
On oublie à quel point l'oxygène nous est vital. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre aussi chaque jour à faire des exercices pour respirer, prendre ce temps-là, ouvrir la fenêtre et Voilà, souffler, oui. Rien que ça, ça calme et on a l'esprit plus clair.
Oui, c'est vrai.
Et vous savez, je travaille beaucoup en ce qu'on appelle en décodage biologique, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on peut déclencher telle ou telle maladie.
Oui.
Et vraiment, ce que j'entends chez vous, c'est une grande souffrance liée à la perte de cette fille. Et oui. Je pense que pour vos autres enfants, ça n'est pas gérable. Ça n'est pas à eux de gérer ça. C'est peut-être pour ça qu'il s'est compliqué vos relations avec eux. Parce qu'ils sont...
J'aimerais pouvoir m'expliquer avec elle qu'on se retrouve toutes les trois.
Ça, j'entends bien. Mais pour arriver à ça... Il faudrait que vous soyez un peu mieux. Bah, parce que là, pour l'instant, elles sont terriblement impliquées émotionnellement, puisqu'il s'agit de leur mère et leur sœur. Et je pense qu'une conversation sereine sera possible et constructive quand vous irez mieux.
Oui.
Et aller mieux, ça passe par cette étape de travail sur le deuil, l'acceptation de ce qui s'est passé, la reconstruction d'une partie de vous qui a été détruite à ce moment-là.
Bien sûr.
Et cette reconstruction psychologique va vous aider à vous reconstruire physiquement aussi. À tenir.
Oui.
Hein.
Oui.
Alors vraiment, trouvez quelqu'un, un bon thérapeute dans votre région. Et c'est pas une fois de temps en temps, là, vu ce que j'entends, c'est toutes les semaines les rendez-vous, au moins.
C'est au moins toutes les semaines.
Parce que je préfère vous entendre avec la voix que vous avez maintenant que celle que vous aviez tout à l'heure.
Bien sûr, hein. Bien sûr. Mais là, je me sentais vraiment en détresse terrible, terrible.
Et je sais.
Et c'est le moment d'aller me coucher. Puis on dit, je n'ai que la journée de demain. Et il faut que j'aille en train jusque Paris et faire deux hôpitaux. Combien de jours, je ne sais pas.
Personne ne peut vous accompagner? Il n'y a pas de...
Pardon.
Non.
J'ai deux bénévoles ici qui vont m'accompagner. Ça, c'est une merveille pour moi. Malheureusement... On a supprimé les transports directs. J'avais un train qui allait direct jusque Paris. Parce que je fais des malaises le matin surtout. Et là, ben, on est obligé de partir tôt le matin. Et donc, cette bénévole va m'accompagner jusque Reims. Et bien près de Reims à Paris.
Alors
Je serai donc attendue par d'autres bénévoles qui appartiennent
à mon
ancien lieu de travail.
Vous n'êtes pas seule, Daniel. On s'occupe de vous, vous êtes accompagnée. Vous allez puiser, vous allez trouver la force en vous, parce que je suis sûre que vous l'avez, cette force. Pour surmonter
Merci
ça.
Merci de me le dire. Merci, vous êtes
Et je ne suis pas la seule,
adorable.
Vous voyez. Il y a Marie qui nous dit, je suis très touchée par Daniel. Elle propose, vous m'entendez là? Il y a Marie qui vient d'envoyer un message pour vous disant qu'elle est très touchée par votre témoignage et elle laisse son numéro de téléphone si vous voulez l'appeler.
Ah ben ça, je le veux bien.
Si vous avez besoin de parler, d'échanger, Marie est là pour vous aussi.
Donc je peux repasser par le standard parasane.
Pas avant de m'avoir embrassée, mais après oui.
Je vous fais une grosse bise.
Moi aussi.
Et puis je vous donnerai des nouvelles.
Avec plaisir, Daniel. Vous ne raccrochez pas et Hassan vous récupère tout de suite.
D'accord, merci.
Prenez soin de
Merci
vous et prenez, de... prenez soin de vos émotions avant, en même temps que votre corps, c'est important.
D'accord.
Je vous embrasse.
Vous êtes adorable. Merci.
Au revoir, Daniel.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à vous, Laura.
Bonsoir, Sabine.
Je suis ravie d'avoir encore le temps de vous accueillir sur cette libre antenne.
Merci, merci.
Alors, racontez-moi un petit peu ce qui vous amène.
Alors, comment... faire vite.
Nous, on a le temps.
En fait,
commencez par le début.
On a le temps. En fait, j'ai rencontré un homme il y a à peu près un an par le biais d'un site et ça a été fulgurant. Je suis tombée amoureuse de cet homme et c'était très bien. Ça semblait réciproque et j'ai vécu vraiment quelques mois fabuleux. Parce qu'en dehors de ça, j'avais une histoire familiale un petit peu compliquée, la maladie, ces choses-là. Donc, ça m'a vraiment... Bon, après, cet homme est un peu plus jeune que moi. Et
quand vous
très
dites
immature.
Un peu plus jeune, c'est-à-dire combien d'écart vous avez
4 ans, 5 ans.
Ah oh oui, non, c'est pas une génération d'écart.
C'est pas beaucoup. Mmh. Mais, mais en tout cas, c'était accentué par son côté très immature. Mmh. Bon, sur le moment, j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant, effervescent, et c'était tout à fait ce qu'il me fallait. Mais petit à petit, notre relation s'est un petit peu transformé. Il est devenu très, 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 comment dire, pressant. Il m'envoyait de plus en plus de textos tous les jours, 10, 20 par jour.
En disant quoi ?
Il me disait qu'il m'aimait tout le temps et il voulait savoir si c'était réciproque.
Mais c'est plus de l'amour, c'est de l'étouffement, là.
Oui, mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de ça, mais c'était, je voulais pas, enfin, je trouvais ça amusant au début. Et...
Oui, c'est valorisant au départ, mais
voilà.
C'est une dépendance qui est dangereuse, ça.
Alors voilà, et je me suis rendu compte petit à petit de comment il était vraiment. Mais j'ai pas voulu le voir, je pense que j'étais dans le déni. Et donc notre relation a continué, il a voulu qu'on se voit de plus en plus. Il voulait qu'on vive ensemble.
Moi, au bout de combien de temps il vous a dit ça ?
Un mois.
Oui, oui.
Oui. Donc, évidemment, j'ai pas. C'est pas envisageable pour moi aujourd'hui. Enfin, c'est pas mon choix. Mm-hmm. Mais bon, je me suis laissée un petit peu embarquer parce que finalement, on se voyait tous les jours. Bon. C'était compliqué parce que je ne voulais pas qu'on se voie chez moi, parce que j'ai encore mes filles chez moi. Et c'est un deal entre nous, on ne mélange pas tout.
Vous alliez où alors ?
Alors, chez lui, mais il habite un petit peu loin, donc je faisais vraiment beaucoup de route pour aller travailler le matin. Ou alors dans une maison qui appartient à une personne de ma famille, qui n'habite pas tout le temps, et voilà. Mais ce qui fait que j'étais jamais chez moi, quoi. Alors, c'est paradoxal parce que j'ai vécu c'est presque une année, c'était génial et à la fois chronophage, énergivore. C'était compliqué, très très compliqué.
Vous avez vécu une relation en mode papillon dans le ventre, un peu comme quand on est ado, c'est ça ?
C'est ça, absolument, oui. Absolument.
Donc c'est un côté très excitant, mais quel âge avez-vous si c'est pas indiscret ?
Je vais avoir 55 ans.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est très excitant, ouais. Mais c'est pas vraiment viable. Parce qu'on n'arrive plus à gérer le reste en même temps.
Absolument. Parce que oui, parce qu'en plus, bon, je pense que je me suis laissée emporter parce qu'à côté, bon voilà, j'ai ma mère qui a déclaré, enfin depuis quelques années, mais ça s'est accentué, la maladie d'Alzheimer, donc il faut que je m'en occupe assez fréquemment.
C'est lourd de ce côté-là. Vous avez besoin de légèreté, forcément, voilà. Bien sûr.
Et elle a perdu son mari dans l'année. Qui a encore ajouté à tout ça. Donc, c'était vraiment un rayon de soleil, ce garçon.
Bien sûr.
Mais de plus en plus compliqué à gérer. Vraiment de plus en plus compliqué à gérer.
Il était jaloux ?
Aussi, oui.
Oui. Ça va avec c'est le package, hein.
Oui, voilà. Alors, je me suis posé la question. J'ai lu, j'ai trouvé que, bien sûr, oui, voilà, il est vraiment dans le stéréotype du dépendant affectif, je m'en suis rendu compte. Et d'ailleurs, j'ai échangé avec lui à ce sujet, parce que je me suis dit, je peux l'aider peut-être.
Il en est conscient, pas du tout ?
Alors, quand j'ai mis les mots dessus, il m'a dit, tu as sans doute raison, ça doit être ça, je ne m'étais pas posé la question comme ça. Alors, la fois d'après, il m'a dit, tu sais, voilà, oui, j'y ai repensé, ça doit être ça, il faut que je fasse des efforts.
Les efforts ne vont pas servir à grand-chose.
Voilà, c'est ça.
Parce que les efforts, ça se fait avec le côté intellectuel du cerveau. Son problème, il est du côté émotionnel.
Voilà, il est complètement dans l'émotion. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Alors c'est ça, je me dis, à un moment donné, il peut comprendre et changer, peut-être. C'est ce que je me suis dit, mais bon.
Comprendre et changer, j'ai un peu de mal avec ce concept-là. Mais travailler sur ses émotions et sur cette blessure et évoluer, oui, c'est autre chose.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Mais est-ce que ça va jusqu'au clash avec lui ? Est-ce que vous vous engueulez souvent à cause de cette dépendance ?
Alors, c'est arrivé. Oui. Oui, c'est arrivé.
Parce que vous devez craquer par moment, j'imagine.
Oui. Surtout, en fait, ce qui m'a mis dans l'embarras à plusieurs reprises, c'est que, évidemment, je l'ai fait rencontrer mes enfants, qui sont des filles, des jeunes femmes. Et j'ai senti, comme c'est quelqu'un qui a besoin d'être vraiment dans la séduction, j'ai senti qu'il l'a été avec ma mère, qu'il l'a été avec...
Oui, il a besoin que tout le monde l'aime, en fait.
Voilà. Mais du coup, j'ai pas aimé la posture qu'il a prise à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais pas complètement à l'aise.
Oui, ça, forcément.
je me suis dit, mais à un moment donné, est-ce qu'il peut tenir sa posture ou est-ce qu'il va déraper? Est-ce que, enfin, au fond de moi-même, je me disais, c'est pas possible. Et en même temps, j'avais des doutes. Et comme j'ai absolument pas envie de mettre mes enfants dans l'embarras ou dans une situation, voilà, donc ce qui fait qu'on s'est complètement replié. On se voyait beaucoup, mais je voyais de moins en moins. Je voulais pas provoquer ces situations de rencontre, en fait.
Après, voilà. S'il n'est pas déséquilibré, il passera pas à l'acte. Mais effectivement, quand on a cette blessure d'abandon plus, on a désespérément besoin que la terre entière nous aime. Donc, ce sont des gens qui sont séducteurs, même avec leurs commerçants.
Qui font
l'œil à la boulangère. Mais même avec les hommes, d'ailleurs, quelquefois, ils ont aussi besoin que les hommes les aiment. Je ne parle pas d'amour physique, mais d'être apprécié.
Oui, mais je m'en suis rendu compte. Oui, une caissière dans un hypermarché... Celui qui fréquente tout le temps, je vois. Et puis en plus, enfin, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser, mais c'est un homme très beau.
Oui, bah oui, il a besoin de plaire, forcément.
Il en a pas conscience en plus, mais il est beau. Enfin, il me dit qu'il en a pas conscience.
Est-ce qu'il a tendance à dramatiser les choses aussi?
Oui, bien sûr, il s'emporte vite, il dramatise beaucoup.
Est-ce qu'il a tendance à être caméléon, c'est-à-dire à pour plaire à l'autre, être capable de changer d'avis ou de se fondre dans l'identité de l'autre?
Ah, mais complètement.
Ouais, bah il est complètement dans la blessure d'abandon, à 2000%.
Complètement. Après, j'ai rencontré ses parents et j'ai compris pourquoi. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, il a un père très, très caractériel. Et très jeune, en fait, il s'est vite rendu compte parce qu'il est l'aîné d'une fratrie de... avec son deuxième frère qui est décédé, très bébé, enfin jeune, 2 mois. Et quand il s'est rendu compte que son père se comportait mal avec sa mère, verbalement surtout, hein, c'était pas gestuel, mais c'était verbal, il s'est dressé contre lui et son père l'a mis dehors, en fait, à 15 ans.
Oui.
Et à 15 ans, en fait, il s'est lancé dans le sport. Et il est devenu compétiteur, quoi. Il a fait le bataillon de Joinville et ensuite il est devenu un sportif de haut niveau.
Il avait besoin d'être reconnu là aussi.
Pendant une douzaine d'années, il a fait que ça. Mm. Il n'avait pas de famille. Il a beaucoup voyagé. Il a été vraiment bien, enfin médaillé, quoi. Je veux pas trop dire de choses, mais puis bon, après tout s'est arrêté évidemment. Hein. Quand on passe 35 ans, ça se complique. Et bien sûr, ça vient de là, je pense. Ça vient de là.
Oui, c'est une course effrénée de reconnaissance et d'amour.
C'est ça.
Et effectivement, ça lui fait porter ce qu'on appelle le masque du dépendant. Il faut vraiment qu'il prenne conscience de ça. C'est pas lui. C'est pas lui qui s'exprime là. C'est cette blessure qui l'oblige à se comporter comme ça. C'est pas son vrai lui, ça. Et finalement, il va obtenir l'inverse de ce qu'il veut. Parce que le problème des gens qui souffrent de cette blessure d'abandon, surtout à un niveau aussi profond que votre ami, c'est qu'inconsciemment, il provoque les situations d'abandon.
Et voilà.
Et probablement qu'il s'est déjà mis dans sa vie plein de fois dans des situations où on l'a abandonné. Parce qu'à force de se comporter ça finit par créer la réaction inverse.
Mais on ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne peut pas lui donner tout ce qu'il souhaite.
Mais non, ça ne serait pas lui rendre service non plus, parce qu'il ira toujours plus loin. Jusqu'à provoquer quelque chose, un autre abandon.
Moi, je me suis dit, à un moment donné, est-ce que je ne peux pas l'apaiser, cet homme? Parce que si on arrive à construire quelque chose d'un peu durable, il va s'apaiser, il va se sentir aimé, il va se sentir calmé, et tout ça va s'arrêter. Et...
Je ne crois pas. Vous n'êtes pas sa psy.
Ouais. Voilà, c'est ce que m'a dit.
Vous n'êtes ni sa maman, ni sa psy. Et c'est pas à vous de jouer ce rôle-là. Oui, vous avez pris...
Ben, j'ai pris la décision de le quitter parce que c'est devenu très, très compliqué.
Ah.
Oui, je l'ai quitté il y en a 2 mois et demi. C'est pour ça que j'appelle, en fait, parce que c'est compliqué, j'arrive pas à l'oublier.
Mmh.
Bon, le jour où je lui ai dit, ça a été très violent parce que là, il avait jamais été, mais là, il a retourné la table.
Oui.
Et j'ai vraiment, moi, j'ai une hantise hein, de la violence. Donc là, je me suis dit, j'ai pris la bonne décision. Voilà. Je l'ai laissé partir et c'était fini. Et là, j'étais convaincue d'avoir pris la bonne décision. Sauf que j'arrive pas à l'oublier.
Oui, j'ai l'impression que vous en êtes moins sûre, là, ce soir.
Ah oui, le problème, c'est que... Je sais que... Parce que je l'ai recontacté. J'ai besoin de savoir s'il va bien.
Ah, par quel biais vous l'avez contacté?
Alors, je lui ai envoyé des textos, et puis je l'ai appelé aussi.
Et qu'est-ce qu'il vous répond?
Alors il me dit qu'il n'a pas été à la hauteur de notre relation, qu'il n'a pas réussi à m'apporter ce que je souhaitais, qu'il s'en veut énormément.
Il va s'auto-flageller, oui, c'est aussi une réaction classique.
Voilà, ouais. Mais que de toute façon, c'est mieux pour moi, que il n'aurait pas pu me rendre heureux, que c'est heureuse, enfin. Et il m'a dit, de toute façon, tu sais très bien comme je suis incapable de rester seule. Donc tu m'as quittée, il faut absolument que je rencontre une autre personne. Mais je le savais, hein, ça, il m'avait dit.
Oui, il a un vide incommensurable à remplir en permanence.
C'est ça.
Il faudrait qu'il comprenne que c'est un trou sans fin et que c'est pas là la solution. Vous avez encore des sentiments pour lui, vous croyez?
Alors, ben, j'arrive pas à déterminer, c'est un petit peu pour ça que j'appelle, parce que j'arrive pas à déterminer si c'est de l'amour ou bien de... J'ai envie qu'il aille bien, ça c'est sûr. Il me manque énormément, ça c'est certain. Je suis persuadée que c'est absolument pas un homme pour moi, mais j'arrive pas à l'oublier. Et en plus là, je le questionne, hein, parce que il est, comment dire, il est très facile à faire parler, il est très facile. C'est ça qui me fait peur, c'est qu'il est très facilement manipulable. Hein. Donc moi, j'ai pas la sensation de le faire de manière malveillante, mais j'ai l'impression que la personne qu'il vient de rencontrer est, par contre.
Ah, il y a déjà quelqu'un installé.
Ah, mais oui. Oui.
Mais il continue à communiquer par vous avec texto quand même, par texto quand même.
Oui, il me dit, tu sais, je l'aime pas, mais je comble un vide, je peux pas rester seule, tu le sais. Bon, je le sais bien, et bon.
Parce que moi, quand je vous entends, j'ai quand même entendu pas mal d'amour. Quand on parle de papillon dans le ventre, quand on parle de moments merveilleux partagés ensemble, c'est pas juste. Si on imaginait qu'il a plus cette blessure d'abandon qui se soigne, pourquoi vous dites c'est pas un homme pour moi? S'il a plus ce comportement-là.
Ah si, il a plus ce comportement-là. Mais le pire, c'est qu'il m'a dit, j'ai appris de notre relation. Je pense que tu es une personne qui m'a apporté énormément. Et aujourd'hui, je fais attention. Et aujourd'hui, cette femme que j'ai rencontrée, ben, je ne l'appelle pas tous les jours. Il accepte de ne pas la voir tous les jours.
Oui, mais je ne vais pas vous faire de peine. S'il ne se soigne pas, ça ne durera pas. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Cette blessure d'abandon, elle ne se soigne pas simplement en faisant attention.
Ouais.
C'est une douleur profonde. Et pour l'instant, il fait attention parce que c'est le début, il montre le meilleur.
Oui.
Mais au premier problème, à la première émotion qui va remonter, ça va reprendre le dessus et cette manière de fonctionner sera la même.
Et apparemment, cette personne, alors, il n'a pas voulu me dire précisément, mais c'est quelqu'un qui le fait réfléchir. Alors, j'ai compris qu'elle faisait des formations pour des soignants, auprès de médecins ou de personnel de santé, de choses comme ça. Mmh. Et je crois qu'elle a dû comprendre tout de suite à qui elle avait affaire. C'est un petit peu ça qui me fait peur.
Peut-être, mais une fois de plus, moi ça me paraît pas sain, c'est pas sa psy.
Oui, c'est ça.
S'il cherche une psy, il faut qu'il aille en voir une, mais sa petite amie n'est pas là pour ça.
Ouais.
Là aussi, il y a une confusion des genres et confusion des rôles. Mais parce que ça aussi, quelqu'un qui a cette blessure d'abandon a tellement besoin qu'on l'aime qu'il mélange tout. Il pourrait même être capable de séduire sa psy derrière.
Ah mais j'en suis persuadée. Je me suis même demandé, parce que je l'ai trouvé tellement proche de ma mère quand je l'emmenais voir ma mère. Alors il est proche de la sienne, mais il la voit très peu. Et tout son problème part de sa mère quand même. Hein.
Mais oui.
Qui est une femme extrêmement douce, gentille, soumise, si on peut dire ça, très... qui lui parle comme quand il avait 5 ans. Moi, je les ai vus l'un avec l'autre et c'est incroyable. Quand il est avec elle, il a 5 ans.
Mais on entend quand on vous parlait de lui qu'il y a une grande partie qui n'est pas mature. Il y a un petit garçon à l'intérieur qui est très très présent encore.
Ah, complètement. Mais même dans son comportement. Hein. Mm. Ah oui, dans son comportement, il est... Après, bon, ça c'est autre chose, mais c'est quelqu'un vraiment avec beaucoup beaucoup d'énergie, avec beaucoup beaucoup de besoins. Sexuel aussi.
J'allais vous le dire, c'est marrant, vous le retirez de la bouche.
Ah oui.
J'allais vous dire, j'imagine que sur ce terrain-là, il est extrêmement présent aussi et extrêmement en demande.
Ah oui.
Ben oui.
Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne se sépare pas d'un homme comme ça facilement. Hein.
Ah oui.
C'est très compliqué.
Ah oui, il a pris beaucoup de place.
Mmh. Hein. Énormément.
Mais puisque vous m'avez dit avoir beaucoup lu, donc vous avez compris ces problèmes de blessures émotionnelles,
oui.
Vous avez identifié.
Ah oui, oui.
Est-ce que vous pourriez lui mettre un deal entre les mains, lui dire écoute voilà, peut-être par écrit, peut-être à l'oral, je ne sais pas comment vous préférez fonctionner, en lui disant que, en écoutant juste votre cœur et en disant sincèrement, je pense que j'ai encore des sentiments parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que vous en avez. et lui dire, moi, j'aimerais bien faire un bout de chemin avec toi, mais il faut vraiment que tu soignes cette blessure-là. Profondément. Oui, c'est un vrai chemin de soins qu'il doit faire.
Oui.
Que ce soit en thérapie classique, que ce soit avec l'hypnothérapie, mais il a vraiment besoin de soigner cette blessure-là pour se comporter comme un adulte et pas comme un dépendant affectif. Pas comme un petit enfant qui a besoin désespérément de la main de maman.
Ah oui, c'est terrible. Oui, c'est tout à fait ça. Ah oui, si, mais quelque part, il le sait, parce que le fait que je le rappelle et que je me soucie de son bien-être, et que il le sait bien, il me dit, tu sais, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, peut-être qu'un jour nos chemins se recroiseront, mais il dit, pour le moment, je suis toxique pour toi, je ne veux pas te faire de mal, et c'est pas possible. Il dit, c'est toi en plus qui souhaitais cette rupture.
Oui, mais ce qu'il faudrait qu'il comprenne, c'est qu'il est principalement toxique pour lui.
Oui, déjà.
Avant toute chose. Et oui, c'est ça le problème. Parce que c'est une fuite en avant avec cette femme avec qui il est. Il recommencera de la même manière. Et il reprovoquera un nouvel abandon.
Ouais.
Jusqu'à ce que ça va tourner en boucle. Ce sont des gens qui fonctionnent toujours sur le même schéma. Même si ça tient,
ça.
La vitrine tient un petit peu au début, quand il dit « je fais attention », il ne pourra pas faire attention longtemps parce que c'est plus fort que lui.
Alors il m'a dit « mais bon, ça, c'est parce que ça m'arrange de le croire ». Il me dit « tu sais, je ne l'aime pas pour l'instant ». Il dit « c'est une relation ». Bon, j'ai pas construit, et il dit je veux pas refaire la même erreur, donc je veux pas retomber dans un sentiment. Il dit c'est une relation, voilà. Mais bon.
Oui,
bon. Il dit ce qu'il veut.
Je pense qu'il y a pas de raison qu'il vous mente, parce que s'il était très amoureux, je vous le dirais. Donc c'est pas effectivement. Moi, je crois que c'est assez logique, hein, c'est cohérent avec son histoire, ça, finalement, avec son profil.
Je lui ai dit qu'il aime la femme qui. En fait, il aime la femme qu'il aime.
Oui.
C'est-à-dire, si cette femme l'aime, il va l'aimer.
En fait, c'est pas de l'amour. Je pense qu'il a besoin qu'on l'aime.
Ah oui, c'est ça, oui. Après, bon, c'est un petit peu... C'est autre chose, mais il a... Parce qu'il est quand même curieux, ce garçon. Il a des réminiscences, comme s'il a un cauchemar qui revient sans cesse.
Oui.
Et en fait, il a l'impression d'avoir vécu une autre vie. Et dans cette autre vie, il meurt. Et il se revoit au moment de cette mort, avec des détails très précis, le moment, etc. Et en fait, cette femme qui, je sais pas, elle a l'air d'être un peu, ça a l'air d'être. Je lui ai dit, mais est-ce qu'elle fait de l'hypnose ? Est-ce qu'elle ? Bah, il me dit, c'est un peu ça. On a fait un travail tous les deux et elle m'a fait réfléchir, elle m'a fait avancer sur ce sujet. Bon.
Vous avez lu le dernier Verber, La boîte de Pandore ?
Non.
C'est un roman qui parle de ça, qui parle de régression dans des vies antécédentes dans lesquelles on a pu avoir des souffrances. C'est romancé, mais c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup Verber.
Oui,
et,
moi aussi,
Et je l'ai dévoré en une nuit, ce livre, La boîte de Pandore de Bernard Verber, lequel, alors de manière romancée, il explique à chaque séance d'hypnose, il descend dans une vie antérieure pour aller chercher le meilleur de ce qu'il a pu être dans une vie ou dans une autre, et pour comprendre aussi ce qui a pu le blesser.
Ah oui.
C'est intéressant, ça peut donner lieu après. Donc, bon, une fois de plus, ça peut être un fantasme ou pas, ça peut donner lieu à une réflexion. Voilà.
Est-ce que vous pensez que ça puisse être un fantasme,
J'en sais rien.
Cette idée, on ne sait pas.
Je ne sais pas, mais c'est toujours intéressant. Moi, je suis ouverte à tout.
Oui, mais oui.
Donc, j'aime bien me poser aussi les bonnes questions. Je sais, je n'ai jamais fait d'hypnose. Vous savez que je suis hypnothérapeute, mais je n'ai jamais fait, moi, de régression. Ce n'est pas du tout mon domaine. Je ne suis pas spécialement attirée par ça, en tout cas personnellement, mais. J'écoute. J'écoute ce qu'il y a autour de moi. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des séances assez surprenantes, des régressions dans le passé. Est-ce que c'est une mémoire cellulaire ? J'en sais rien. Je sais qu'on hérite aussi dans nos gènes, et ça, ce n'est pas du domaine du fantasme, c'est prouvé médicalement, des émotions des trois générations précédentes.
Ah oui.
Et oui, nous sommes le réceptacle de notre mère, notre grand-mère et notre arrière-grand-mère, par exemple.
Ah oui. Oh.
Donc tout ça, c'est un vaste domaine et c'est sans fin,
c'est
et c'est passionnant.
Ouais.
C'est plein de choses, mais ça peut être intéressant pour lui aussi de comprendre, de trouver une piste de cette espèce de rêve récurrent, de cette...
Ah oui, c'est impressionnant. Alors bon, il y a des gens à qui ça peut faire peur, mais moi, je pense qu'il faut qu'il le travaille, ça, effectivement.
Oui, je sais pas. Moi, ça ne me fait pas peur. Je regarde ça avec intérêt, mais détachement. Cette fameuse bonne distance émotionnelle dont je parle toujours.
Oui, voilà, c'est ça.
Il ne faut pas, tout prendre en pleine face sans aucun filtre, mais il est intéressant de rester ouvert à tout ce qui est possible. Mais effectivement, j'ai l'impression que cette femme, pour lui, est plus de l'ordre de la thérapeute que de l'amoureuse.
Alors, en plus, enfin, ça c'est son, enfin, il me dit, ne me fais pas parler, c'est pas bien que tu saches ce genre de choses. Moi-même, je veux pas savoir si tu as fait d'autres rencontres, etc. Mais au final, j'arrive à le faire parler quand même, parce que je suis très curieuse de cette femme. Voilà. Et il me dit, tu sais, avec elle, c'est pas pareil. Elle est très autoritaire, beaucoup plus que toi, que tu ne l'étais. Et d'ailleurs, elle a compris que j'étais fragilisée par notre relation et elle exige que je ne te voie pas. Elle ne veut pas que je te rencontre. Voilà.
Ouais, ben là, ça marche dans le monde bien, visiblement.
Oui, ça, enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vue. On ne se voit pas.
Oui, mais vous êtes toujours en contact.
Toujours, oui.
De toute façon, les menaces n'ont jamais empêché personne de se voir.
Non, mais bon, il me dit, tu sais, je vais respecter, tu sais, comme je suis... Parce que c'est vrai en plus, hein, là, il a enchaîné sur cette relation. Mais par contre, quand il me dit qu'il est fidèle, je le crois.
Ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs, parce que ce qu'il fait aux autres, il peut vous le faire à vous.
Hein. Oui, complètement. Et donc cette femme aurait une sexualité très très bizarre. Il me dit, tu sais, je découvre, moi, tu sais comme je suis curieux, alors je m'exécute. Elle me propose des choses vraiment bizarres. Voilà,
c'est quoi bizarre, vous avez réussi à savoir?
Alors, il m'a lâché deux, trois choses où elle l'attache, elle lui bande les yeux, enfin bon, c'est pas rien d'extraordinaire non plus, mais je me dis, mais pourquoi il se laisse faire comme ça, quoi? Moi, j'ai presque peur pour lui.
Bah, c'est son côté dépendant qui est flatté, là, il aime ça, forcément.
Ouais.
C'est une dépendance affective qui se transforme en jeu de dépendance sexuelle.
C'est ça, et il acceptera tout, hein.
Et il rejoue le même scénario sur un autre terrain.
C'est ça. Et quand je réfléchis à ça, je me dis, mais sois raisonnable, c'est pas... Voilà. Arrête d'y penser, arrête de...
Alors Laura, si l'amour était raisonnable, je crois que ça se saurait.
Oui.
Hein ?
Oui.
Et
oui.
Si on avait un bouton arrête, je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui aimeraient bien être équipés du bouton arrête.
Oui. Oui.
C'est pas si simple et j'entends bien qu'il y a des sentiments et qu'il y a un truc qui n'est pas fini, quoi.
Oui, c'est pas fini, oui. C'est pas fini.
J'aime beaucoup cette phrase, un ami qui me disait un jour, tu sais, tout est bien qui finit bien, et si c'est pas bien, c'est que c'était pas fini.
C'est pas bien. Ah oui, c'est vrai.
Hein, c'est joli.
C'est vrai. Oui, c'est joli. C'est vrai.
Et il y a quelque chose de l'ordre de l'inachevé dans cette relation, j'ai l'impression.
C'est inachevé, mais en même temps, il me dit, tu vois, toi, tu n'es pas prête, aujourd'hui, tu n'es pas prête.
Ah, c'est lui qui n'est pas prêt.
Mais enfin, je suis pas prête non plus. Moi, il me dit, tu sais, moi, elle m'emmène chez elle, je passe des week-ends chez elle. Il y a sa fille et ça la gêne pas. On partage des moments, on va au cinéma, on fait des choses. Et moi, c'est vrai que je souhaite pas faire ça avec mes enfants. Je souhaite pas les mêler à ça. Je me dis que chacun son histoire et ça a déjà été un petit peu compliqué de gérer l'histoire avec leur père, etc. J'ai pas envie de les mêler à mon histoire. En tout cas, pas rapidement, quoi.
Et ça, c'est votre droit. Et quelqu'un qui serait beaucoup plus stable émotionnellement le comprendrait, je pense.
Ouais. Oui, parce que j'ai eu une expérience précédente. Alors, avec l'opposé, là. C'était pas mon fils, c'était mon père. C'est une personne plus âgée, oui. Voilà.
Vous avez un peu travaillé sur vous pour aller savoir pourquoi vous attirez ce genre d'homme? Ou pourquoi vous êtes attiré par ce genre d'homme?
J'ai un peu travaillé il y a longtemps et je me suis dit 2019, il faut que je m'y remette. Là, il faut que je fasse un sérieux travail sur moi.
C'est peut-être une solution aussi parce que effectivement comprendre pourquoi vous allez quand même dans ce genre de relations qui ne vous satisfont pas en fait.
Oui.
Il doit y avoir quelque part une ficelle sur laquelle tirer pour défaire le nœud.
Ouais. Et pourquoi je suis tout le temps dans cette culpabilité par rapport à mes enfants, ça c'est aussi... Et je pense que quand j'aurai réglé ça, je pourrais aller dans une relation plus sereinement, je pense. Mais il faut que je le travaille.
Non seulement aller dans une relation plus sereinement, mais je pense surtout vers quelqu'un qui convient à celle que vous êtes aujourd'hui.
Oui.
C'est ça qui est important. Vous attirez la bonne personne.
Oui. Je vais
le faire. Mais quand même, je pense que si vous avez des contacts avec votre ami... Aidez-le à soigner cette blessure. Si ce n'est pas pour vous deux, faites-le pour lui.
Au moins pour lui.
Au moins pour lui. Il vous en sera vraiment reconnaissant un jour, je pense. Et puis après, on verra si la vie vous fait recroiser vos chemins, mais ça me semble déjà important. Mais je me fais pas trop de soucis pour vous, parce que j'ai bien entendu que vous avez compris beaucoup de choses déjà.
Oui, je vous remercie. Merci bien.
Laura, on va devoir se quitter, l'émission se termine.
Oui.
Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci de votre appel.
Au revoir.
Au revoir, Laura. Merci à vous, merci à Daniel, à François, Isabelle, à tous ceux qui ont participé ce soir. Comme d'habitude, un grand merci à vous qui avez envoyé des SMS qui ont été très nombreux. Demain soir, c'est Sophie Peters que vous retrouverez à ce micro. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 23h30 pour de nouvelles confidences. Passez une bonne nuit et à vendredi.